En mars dernier, on est venu prélever et donc on a 35 microgrammes par litre.
D'accord.
Et la norme normalement pour le chlordécone, c'est 0,1 microgramme par litre.
Et on a 35.
Épisode 6. En Guadeloupe, état des lieux après le non-lieu. Comment vivre dans un paysage chlordéconné?
Avant, vivre au bord de la mer, faire un petit coup de pêche, avoir son cochon sous le manguier, avoir ses cabris, ses poulguèmes qui courent, un peu de madère, un peu d'igname à droite. Vous aviez vraiment un cercle vertueux, je veux dire, c'est génial, quoi. Eh ben non, aujourd'hui, je vous ai cité que des trucs qui sont
interdits,
dont on recommande de ne pas consommer.
Bonjour à toutes et à tous. Nous voici cette semaine à Basse-Terre, tout au sud de la Guadeloupe, où malgré l'abandon des poursuites pour empoisonnement, la chlordécone continue d'empoisonner l'eau, la terre et le vivant 30 ans après la fin de son utilisation. Cet insecticide organochloré toxique et persistant, utilisé de 72 à 93 pour combattre le charançon de la banane, a pollué 12 500 hectares de terre en Guadeloupe, 26 000 en Martinique et a contaminé 90% de la population. C'est un scandale sanitaire, une atteinte environnementale dont les conséquences humaines, économiques et sociales affecteront pour de longues années la vie quotidienne des habitants, ont même reconnu les juges d'instruction du tribunal de Paris en janvier dernier. Ce qui ne les a pas empêchés de déclarer un non-lieu définitif. Alors si des parties civiles ont fait appel, dénonçant un déni de justice, quoi qu'il advienne, 17 ans après la première plainte, 30 ans après la fin des épandages aux Antilles, malgré une interdiction en métropole 3 ans auparavant, et 46 années après la première interdiction aux États-Unis, les Guadeloupéens doivent apprendre à vivre dans un paysage chlordéconné. Et donc les pouvoirs publics testent l'eau des nappes phréatiques, la terre des jardins, le sang des habitants et lancent des campagnes pour apprendre à adapter son mode de vie. Une nouvelle hygiène de vie partant de chlordéconomie. Alors je vous propose, pour ce premier volet qui sera à suivre la semaine prochaine, de tenter un état des lieux, 7 mois après le non-lieu. Entre des scientifiques qui enquêtent sur où va la chlordécone et ce qu'elle fait, et ceux qui doivent faire avec cette nouvelle réalité qui est partie pour durer. Guadeloupe, comment vivre dans un paysage chlordéconné? Première partie, état des lieux après le non-lieu. Un reportage mis en onde par Clément Nouguier avec Vincent Désière à la technique aujourd'hui. Mais comme le chantaient les Vikings de la Guadeloupe, assez parlé.
Je reviens du monde d'avant.
8h du matin, dans le sud de la Guadeloupe, à Gourbert. Et ici, on est en plein cœur de ce qu'on appelle le croissant de la banane, qui concentre la majeure partie de la production de la banane ici en Guadeloupe. et donc subséquemment qui concentre aussi la majorité des contaminations au chlordécone. Et si on est ici ce matin de week-end, c'est parce qu'on va assister à une petite formation, à un atelier comme ceux qui sont organisés par l'Agence Régionale de Santé sur comment on fait pour continuer à vivre dans cet environnement chlordéconné. Et là, je vois, il y a deux messieurs qui sont là et qui attendent leur tour. Bonjour, monsieur.
Bonjour.
Bonjour, monsieur.
Riche Bruyant.
Oui. Enchanté. Et vous?
Oui, moi, je suis monsieur El Sivan Jean Montreuil.
À vous montrer votre pièce d'identité.
Oui.
Jean Montreuil.
Oui, tout à fait.
Et vous êtes venu ici au rendez-vous, là, pourquoi?
Oui, je suis venu au rendez-vous pour faire des chlordécone.
Ah ben ça fait 43 ans. Oui, 43 ans, j'ai travaillé dans la banane.
Et vous?
Oui, j'ai travaillé dans la banane en l'autant même. Enfin.
Le chlordécone a été utilisé jusqu'en 1993, alors que ce pesticide avait été interdit dans l'Hexagone 3 ans plus tôt.
J'ai commencé à travailler. J'étais très contente de travailler, mais c'était vraiment un produit dangereux.
Le chlordécone s'est avéré hautement toxique pour ceux qui l'ont manipulé.
Ouais, ouais, ça était dangereux vraiment.
Et à l'époque, on ne vous le disait pas que c'était dangereux?
Non, mais c'est à la longue. C'est une poudre blanche.
Une poudre blanche?
Ouais, une poudre blanche.
Il a pollué de façon durable les sols, les eaux. 90% des habitants sont contaminés.
On faisait comment pour l'asperger?
Ouais, en tout cas, mettez-le dans la banane, dans le pied malade.
À la main?
Oui, à la main.
Il n'y aura pas de poursuite. Les associations à l'origine de la plainte dénoncent un déni de justice.
Alors c'est pour ça que je suis venu pour peut-être dédommager.
Bonjour monsieur. Bonjour Guy. Vous aussi vous venez pour le chlordécone?
Oui.
Moi aussi.
Oui. Et vous aussi vous étiez des travailleurs de la banane?
Oui, parce que depuis 1979, nous avons mis des produits à la banane.
Vous mettiez des produits à la banane?
Oui, oui. Il y a tout le produit, chlordécone, minéral, thémique, toute qualité des produits.
Tout un tas de produits, pas que le chlordécone.
Ouais. Oui. Alors, qui veut dire ça a fait une malade dans tes fonds moi à l'hôpital.
Vous avez passé un mois à l'hôpital?
Oui.
Et vous, monsieur?
Oui, moi aussi, je travaille dans la banane.
Longtemps?
Bon, depuis que je suis entré ici, je travaille dans la banane.
Depuis que vous êtes ici?
Oui.
On est tout douleur, tout corps moi.
Vous avez mal partout maintenant?
Tout partout.
Oui, c'est vrai.
C'est en opéré thyroïde aussi, en bas cou là.
Ah là, vous montrez, vous avez une cicatrice à la thyroïde.
Oui.
Quand est-ce que vous avez compris que c'était à cause du chlordécone que vous étiez malade?
Eh bien, à partir de 45 ans, 50 ans. Ouais. Mais maintenant, j'ai 67 ans. Là, ça fait mal, tout partout.
Et vous avez quel âge?
Moi, j'ai 52 ans.
Moi, 65 ans.
Et vous?
Oh, moi, 64 ans. Comme ça? Malade, j'ai opéré 4 fois.
4 fois déjà opéré?
Varus, 3 fois. Ouais. J'ai opéré tous les 2 genoux.
2 genoux opérés?
Oui, parce que tout le travail est dans la banane.
Parce que le travail dans la banane, ça vous a cassé, quoi.
Oui, c'est poisonné.
Eh bien, ça, nous, tout le monde qui travaille dans la banane, tout poisonné. Oui.
Tous ceux qui travaillent dans la banane se sont trouvés empoisonnés.
Comme grand monde.
Les petits, les anciens, comme les jeunes.
Oui. On l'a mon jamo.
Tout à fait. Oui, c'est tout le monde comme grand monde.
On l'a mon jamo.
Il y en a beaucoup qui sont déjà morts.
Oui. Oui. Empoisonné.
Empoisonné. Et alors, qu'est-ce que ça vous a fait quand vous avez appris, là, en janvier dernier, que le procès au tribunal, ils ont dit, c'est un non-lieu?
Eh bien, c'est-à-dire que le tribunal a couillonné nous. Parce que pourquoi?
Il vous a couillonné?
Il a couillonné nous, parce que pourquoi? C'est mort, nous, quand il est mort, si son petit l'argent, il a nous, il faut nous pour nous manger, parce que nous, il a condamné à mort.
C'est une condamnation à mort,
mais
parce
qu'on
ne peut plus.
Oui.
S'il n'y a pas d'indemnité, on ne peut plus travailler pour manger.
Mais non.
Alors là, présent, il faut que dédommager nous et puis pour nous ça qu'il faut pour nous faire vivre et jusqu'à.
Nous carrément.
Jusqu'à. Vous, ce que vous voulez, voilà, c'est que vous ayez un dédommagement, une aide pour pouvoir vivre jusqu'à la mort.
Tout à fait, oui. Mais oui, c'est
survivre.
Ça. Mais oui, c'est ça. Ouais. Ok. Ouais.
C'est pas normal parce que la France, nous sommes contaminés. Et pourquoi ils ont dit ça? Non-lieu.
Ils ont dit non-lieu?
Alors, c'est pas normal. C'est une injustice.
Ouais. Ah, ils nous font signe pour y aller.
Okay.
Bon, alors on va, c'est l'atelier qui commence alors, monsieur.
Oui.
Bonjour.
Bonjour.
Vous allez bien?
Bonjour, ça va? Et forme?
Et voilà monsieur Gabon qui arrive.
Philippe Gabon, ingénieur agronome consultant.
Ingénieur agronome, oui.
Voilà, et qui va intervenir dans le cadre de l'atelier chlordéconomie. Et qui va expliquer un petit peu comment cette molécule est sortie des terres et entrée chez nous.
Chez nous, c'est-à-dire dans le corps.
Dans le corps, tout à fait. Voilà, on va voir ça. Très bien, je vais commencer à m'installer. Voilà. Peut-être avant de commencer, qu'est-ce que la chlordécone ?
Le chlordécone, nous y voilà.
C'est une molécule qui agit pour lutter contre le charançon de la banane.
Au cœur de cette molécule, une cage de carbone qui lui vaut d'être très résistante.
Voilà. C'était un produit qui était épandu manuellement de 72 à 93.
On dit du chlordécone qu'il a une forte rémanence, parce que la molécule peut vivre des siècles.
Donc en gros, on a utilisé 300 tonnes aux Antilles, Guadeloupe et Martinique.
Résultat, on la retrouve partout, dans l'eau, mais surtout dans le sol.
Ça va pour l'instant? Vous arrivez à bien visualiser un petit peu dans le temps et où est-ce que ça a été utilisé? Alors, on va voir maintenant comment est-ce que la molécule se trouve dans notre environnement.
Et voilà comment pendant 2 heures, les participants de cet atelier organisé par l'ARS de Guadeloupe vont se faire expliquer pourquoi et comment ils se retrouvent ainsi chlordéconés. Il y a donc des anciens ouvriers de la banane venus avec leur créole d'Haïti et qui étaient en première ligne à manipuler la chlordécone, mais il y a aussi des Guadeloupéens ordinaires sans aucun lien avec cette activité, car c'est essentiellement par l'alimentation que se fait la contamination. Et donc tous vont se faire expliquer avec cartes et inventaires ce qu'on peut boire, manger, ce qui est à proscrire et ce qui est à éviter. Tout ça pour essayer de diminuer leur exposition à la molécule. Et pour comprendre comment on en est arrivé là, on va aller faire un tour là où tout a commencé, dans les bananeraies, avec des chercheurs qui étudient le cheminement de la chlordécone dans l'environnement.
Là, on est au-dessus de Capesterre, c'est
oui,
ça?
Oui, on est vraiment sur les hauteurs de Capesterre.
Vraiment le croissant de la banane, comme on dit.
Oui.
C'est très très beau parce que d'un côté, il y a les champs de bananes qui sont à flanc de coteau, là, qui descendent assez raides. Et puis de l'autre côté, on voit la forêt, là. Et ça fait vraiment forêt pluviale parce qu'on voit les petits nuages qui sont accrochés à la cime des arbres.
On la voit pas, là, mais on est quasiment au pied de la montagne de la Soufrière.
Parce qu'elle est cachée dans les nuages, là.
Elle est cachée dans les nuages. Les deux tiers en fin de bassin versant sont des terres agricoles, alors principalement de la culture de bananes et puis un peu de canne à sucre. Donc moi, je suis Antoine Richard, je suis ingénieur de recherche à INRAE et je travaille sur les transferts de pesticides dans l'environnement, dont la chlordécone. Et je gère avec mes collègues Charlotte Dromard et Antoine Dessex l'Observatoire des pollutions agricoles aux Antilles et notamment le bassin versant, ici la rivière Pérou et Épère en Guadeloupe.
Et c'est pour ça que vous m'avez amené ici, pour m'expliquer où va la chlordécone dans le paysage, quoi.
C'est ça.
Là, moi, je suis devant un paysage magnifique. Pas loin, là, ça, c'est, j'imagine, c'est le parc naturel de Guadeloupe.
Oui,
c'est ça.
Oui, exactement.
On entend la rivière en dessous.
C'est la rivière Pérou, ouais.
Mais tout ça, là, tout ce qu'on a sous les yeux, est chargé de chlordécone?
Alors, pas la forêt. Donc, il y a de la chlordécone partout où il y a eu de la culture de bananes. La chlordécone, elle a été utilisée sous forme de poudre. Hein. La poudre était mise au pied des bananiers pour lutter contre le charançon, souvent à la main par les ouvriers agricoles. Il y a une quantité énorme de chlordécone qui a été utilisée, qui s'est accumulée dans le sol. Les sols qui ont eu la chlordécone sont contaminés durablement. Donc les sols sur lesquels on est là actuellement, on parle de contaminations qui peuvent durer plus d'une centaine d'années. Mais la chlordécone, comme elle est fixée de manière très durable dans les sols, elle va se diffuser très lentement dans l'environnement et donc du coup contaminer pendant très longtemps, notamment les eaux souterraines qui sont maintenant les eaux les plus contaminées en fait. Hein, Antoine il vous le dira mieux que moi, mais par rapport aux rivières, on a des concentrations qui sont parfois 10 fois plus grandes.
Alors bonjour, moi c'est Antoine Dessay, hydrogéologue au BRGM Guadeloupe.
Et donc c'est en étudiant l'eau qu'on peut étudier là aussi où va se fichu chlordécone, il n'a pas juste dévalé le long des cours d'eau et dans les sols, mais il s'est accumulé dans le réservoir d'eau de la Guadeloupe.
Et exactement, oui. Et quand on fait notre bilan, on se rend compte qu'il y a une part plus importante d'infiltration que de ruissellement. Le ruissellement, c'est ce qu'on voit en surface. L'infiltration, c'est ce qui vient à la nappe. Mmh. Et donc, par infiltration, l'eau de pluie s'infiltre et l'eau de pluie, sur son chemin, elle vient récolter les molécules qui sont épandues en surface. Donc, c'est pour ça qu'on en retrouve beaucoup dans les eaux souterraines, voilà. Et le problème, c'est le temps pour atteindre la nappe d'eau phréatique, plusieurs dizaines d'années. Donc nous, là, on fait des observations, parfois sur ce qui a été épandu dans les années 70-80.
Qu'on ne voit qu'aujourd'hui.
Voilà, donc ce qui nous laisse penser quand même que le stock n'est pas encore écoulé et a encore un bel avenir malheureusement devant lui.
Oui, donc je suis Charlotte Dromard, je suis maître de conférence en écologie marine. Donc je travaille sur la contamination du milieu marin.
Donc là, vous êtes en amont de votre terrain d'étude. Là, on est en haut des collines. Là d'où part la chlordécone, voilà, qui va atterrir sur...
Chez moi.
Voilà.
Et donc, toute cette chlordécone qui transite depuis les sommets de Capesterre vont finalement atterrir dans les milieux côtiers marins. Et c'est vrai que pendant de longues années, on s'est dit que la molécule allait se diluer dans la masse d'eau et que ce niveau de contamination, finalement, il serait dérisoire. On s'est rendu compte au fur et à mesure des études que...
Manque de bol,
la molécule est bien présente parce qu'en fait, elle va se fixer soit dans le sédiment, soit dans des organismes marins, ce qui va entretenir son cycle et sa transmission au fur et à mesure de la chaîne alimentaire. Donc moi, je suis un peu l'exutoire final de cette molécule qui n'a pas fini son long voyage. Donc elle est là, elle n'a pas disparu.
Voilà. Alors on rassure tout de suite les auditeurs. L'eau du robinet, normalement, elle est filtrée avec des charbons, etc.
Oui. Oui,
donc
oui,
elle est potable.
Les stations de traitement en Guadeloupe, elles existent. Donc il y a des filtres à charbon actifs pour abattre la concentration en micropolluants. Maintenant, la partie de distribution en Guadeloupe, on fait juste une petite parenthèse là-dessus. C'est que, grosso modo, l'état du réseau, il est inférieur à 50% en Guadeloupe. Donc ce qui fait qu'il y a...
C'est catastrophique.
Donc les gens se tournent vers ces sources qu'on analyse et qui rendent compte de
taux de
concentration...
100 fois au-dessus des normes.
Voilà, 10 à 100 fois, selon les endroits où on est. Donc après, on ira voir les sources pour un petit peu se rendre compte de ça.
Très bien.
Voilà.
C'est la double peine, en fait, si sort de source. Et comme il n'y a pas d'eau, faut bien trouver l'eau ailleurs.
France Inter. Je reviens du monde d'avant.
Changement de décor et suite de notre visite avec les chercheurs de l'Observatoire des pollutions agricoles ici en Guadeloupe et aux Antilles françaises en général. Mais là, c'est plus du tout un coin. Ah si, il y a un cochon quand même. Mais on est près d'un rond-point routier à la sortie de Capesterre et sous un vieux pont abandonné où nous reçoit un charmant cochon, tout poilu et tout acheté. Et on arrive près d'un cours d'eau. Et voilà l'objet de vos études.
Donc là, on voit ce qu'on appelle, nous, l'exutoire de la rivière Pérou. Alors,
ça, c'est le ruisseau qu'on entendait là-haut?
Exactement. Donc on y retrouve, bien sûr, de la chlordécone dans 100% des échantillons depuis 2016 qu'on analyse de la chlordécone en concentration relativement importante, systématiquement supérieure au seuil de potabilité. Donc ça veut dire que rien qu'avec cette substance-là, l'eau ne pourrait pas être consommée.
Ah, d'accord. Ah oui, d'accord, il y a une petite guérite.
Donc là, c'est notre préleveur automatique. Donc on récupère l'eau dans des bidons comme ça.
Et on fait des tableaux avec plein de courbes et des cartes.
Donc voilà. Donc là, c'est ce qui se passe dans cette rivière. Donc l'évolution de la concentration. Et donc la petite courbe bleue représente à elle seule la chlordécone. Donc on voit que c'est la chlordécone qui surplombe tout. Et donc on est à des concentrations entre 0,5 et 1 microgramme par litre dans la rivière, avec une limite de potabilité qui est à 0,5.
C'est-à-dire que c'est une eau qui est clairement contaminée. Okay. C'est-à-dire que quoi qu'on fasse, on est parti pour un long moment.
On est parti pour longtemps, exactement.
Corona et chlordécone chantent politique naïve. Il ne faut pas être sorcier pour voir combien le scandale de la chlordécone a eu des répliques pendant la pandémie aux Antilles. Et comment ce premier séisme de santé publique y a nourri la défiance vis-à-vis de la vaccination. On estime aujourd'hui qu'à peu près 15% de la population présente des taux supérieurs à 0,4 microgramme de chlordécone par litre dans le sang, le seuil à partir duquel le risque de maladie s'accroît. D'abord limité aux travailleurs de la banane, les tests gratuits sont depuis peu ouverts à tous. Et ici à Basse-Terre, c'est parfois la douche froide quand tombent les résultats. Comme dans cet atelier proposé à ceux qui ont un test positif, où l'on parle de santé, mais aussi de droits et de prise en charge. Car après le non-lieu, c'est parfois difficile à avaler. Se retrouver empoisonné sans que personne ne puisse être tenu responsable.
Voilà. Donc,
je traduis pour le journaliste, où donc, il disait qu'effectivement, il y a un processus d'indemnisation qui a été mis en place pour les ouvriers agricoles victimes de la banane. C'est un décret qui est paru. Sauf que, justement, les autres personnes, comme vous, qui n'avez pas travaillé donc, dans la banane, aujourd'hui, il n'y a pas encore de dispositif, puisqu'en fait, le dispositif, aujourd'hui, c'est un tableau de maladie professionnelle. Alors, pour que, justement, vous puissiez bénéficier d'aide quelconque, parce que vous êtes malade, hein, si vous êtes là, il aurait fallu, dans le cadre justement donc des procédures judiciaires, que l'État français soit reconnu coupable, qu'après, les personnes qui ont subi un préjudice peuvent demander réparation. Or, sachant qu'il y a un non-lieu, donc pas de coupable, pas de responsable, donc ça veut dire que...
C'est messieurs, dames qui sont devant nous.
C'est messieurs, dames qui sont donc devant nous. Ils ne peuvent demander de préjudice à personne puisqu'il y a un non-lieu. Voilà.
Est-ce que quelqu'un peut dire un mot? Pas de courageux. C'est pour parler à
moi.
Élise, vous sortez de cet atelier, mais vous n'êtes pas une travailleuse de la banane.
Je ne suis pas une travailleuse de la banane, mais je suis indirectement liée. C'est comme j'ai grandi à Capesterre, j'ai dit je veux savoir.
En plein dans la région de la banane.
En plein de la région de la banane. Vacances scolaires, j'allais avec ma grand-mère qui faisait des bandages à la main, sans masque, sans gants, et je la suivais. Voilà, donc à l'époque, on ne savait pas qu'on était contaminé, donc tout le monde consommait l'eau sans savoir. Le poisson, on ne savait pas que c'était contaminé, donc voilà, on a été contaminé comme ça.
Et du coup, vous êtes fait tester récemment ?
Je me suis fait tester, c'était dans ma tête depuis un moment, et quand j'ai fait, je suis à 3.
3 ?
Il faut être inférieur à 0,4, et je suis à 3. Donc voilà, donc j'ai été construite dedans, ouais. Puisque je suis née en 66, et depuis que ça a commencé, on a vu, voilà. Donc,
vous avez grandi avec la chlordécone ici,
j'ai
en Guadeloupe.
J'ai grandi dedans, j'ai baigné dedans, j'ai... voilà.
Et donc, derrière ce sourire, je sens que vous êtes en colère quand même.
Ben oui, parce que quand on sait qu'on avait les documents, qu'on avait les preuves, qu'il y a des laboratoires qui ont dit que c'est cancérigène, qui ont prouvé... qu'on a fait disparaître les documents, ben oui, ça fout la rage. Mmh. Oui.
Et le non-lieu, alors ? Quand c'est arrivé, c'est début de l'année, là, en janvier ?
Mais c'est un scandale. C'est un scandale. C'est pas normal, tout ça. On sait que c'est pas bon, on sait que ça empoisonne, et on continue. Voilà. Et même après l'interdiction, quand c'est arrivé en Guadeloupe, ben on sait, avec les enquêtes qu'il y a eu parlementaires, que le produit a continué à être utilisé.
Il y a eu, voilà, il y a eu pendant 3 ans des sursis parce qu'il y avait des stocks qu'il fallait écouler.
Voilà, donc il faut écouler les stocks, il ne faut pas perdre de l'argent, on avait déjà payé. Ouais. Et tant pis pour les autres.
Donc ça laisse des traces, tout ça. Il y a les traces dans la nature et dans la terre et dans l'eau ici de la Guadeloupe, mais il y a aussi la trace dans les esprits, les mentalités des habitants.
Comme le dirait l'UGTG de Montagne, mais je ne suis pas pro...
Ça, c'est l'Union Générale des Travailleurs Guadeloupéens,
voilà,
le syndicat, principal syndicat.
Je ne suis pas pro-UGTG, je ne suis pas pro-de Montagne. Mais quand ils disent on veut nous tuer à petit feu, au moment on est obligé de dire mais bon, il y a peut-être du vrai quoi. Voilà. Mais il faut garder espoir, sinon ça sert à rien de vivre. Il faut garder espoir. Un jour, l'ordre de la justice vaincra.
Merci beaucoup. Voilà. Bon courage.
Merci, bonne journée.
Pourquoi cet insecticide a-t-il été autorisé aux Antilles alors qu'il était interdit aux États-Unis? Quels sont les responsables? Comment indemniser les victimes?
France Inter. Qui vend-il?
Beaucoup de ces questions risquent de rester en suspens après ce non-lieu, venu, rappelons-le, 17 années après la première plainte. Alors j'ai voulu aller rencontrer quelques-uns de ceux qui, en Guadeloupe, ont porté l'affaire devant les tribunaux et dénoncent aujourd'hui un déni de justice.
Alors le bruit qu'on entend, c'est un grain qui vient de tomber d'un coup, à côté d'un champ de canne à sucre.
On est à Ravine Chaude, ou la Motte en Guadeloupe. Je m'appelle Patricia Châtenay-Rivaudet. Une citoyenne très engagée pour le vivant, pour la sauvegarde des communs, parce que je suis très préoccupée par l'avenir de mon île, de mon archipel et de la vie des générations à venir. Et donc j'ai cherché des personnes qui, avec moi, ont fondé l'association Vive, dont le docteur Jean-Marie Flower.
Bonjour. 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 Alors moi je suis Jean-Marie Flower, voilà, Flower comme la fleur, docteur en écologie. Donc je suis un scientifique. Avant d'être un militant, même si, et c'est là où on se rejoint, on est aussi militant. Donc je suis président de l'association Vive depuis quelques mois maintenant. C'est un marathon, On a compris dès le départ qu'on est dans quelque chose qui, avec le chlordécone, est du même ordre de grandeur que le scandale du sang contaminé, que le scandale de l'amiante, que les conséquences des essais nucléaires dans le Pacifique ou en Afrique du Nord. Donc c'est un travail de très très longue haleine.
Et pour ça, moi je dis que nous devrions tous Guadeloupéens, tous Martiniquais, tous Français, hein, nous battre. Et nous battre contre quoi ? Contre ce scandale de l'empoisonnement par le chlordécone. Et moi je dis bien que pour moi c'est un empoisonnement, parce que là il n'y a plus de doute que tout le monde a laissé faire, et que parmi ceux qui étaient censés étudier comment nous protéger dans une commission toxique, ben, il y avait ceux qui vendaient et qui commercialisaient les produits. Ils savaient ce qu'était ce produit. Ils savaient que ce produit, il fallait pas le commercialiser et continuer à le commercialiser et donner des licences en plus pour que ça se refasse. Et ça, on nous l'a caché, et c'est grâce aux dernières révélations qu'on a su.
Donc, de la cellule d'investigation de Radio France, voilà. Précisons-le là.
Ben, bien sûr, et d'un travail remarquable qu'a fait Anne-Claire Barral, parce que quelque part, on se rend bien compte que quand on nous dit « mais non, vous êtes catastrophiste et tout », parce que pour moi, aujourd'hui, qui suis touchée, au nom de toutes ces personnes qui sont déjà parties et qui en ont souffert, au nom de ces personnes qui souffrent maintenant, même si on me dira probablement qu'on ne peut pas dire qu'il est avéré que toutes les personnes qui souffrent de graves maladies, comme le cancer et autres, c'est directement lié au chlordécone, eh bien moi, je me permets en tant que victime de dire que face à tout ça, nous ne pouvons qu'être des lanceurs d'alerte et des combattants face à cette industrie qui, pour multiplier les profits, n'a aucun scrupule à empoisonner les gens, à empoisonner les communs, à empoisonner le vivant et à ce monde d'exploitation phytosanitaire qui attaque la vie. On ne peut qu'être révolté pour le profit de certains. Eh bien, nous qui n'avons rien demandé, ben, nous en tombons malades et nous pouvons mourir.
C'est pour ça, Jean-Marie et Patricia, qu'à l'issue du non-lieu de janvier dernier, vous avez tous les deux co-signé avec votre avocat et d'autres une tribune qui a été publiée en tout dans l'Obs et qui insistait vraiment sur l'idée de ce passé qui passe pas, quoi. Sur comment on en arrivait là et comment faire pour que ça se reproduise pas.
En fait, la tribune, elle est là pour rappeler que justement, on est vraiment dans quelque chose qui a vraiment des relents néocoloniaux très très puissants. Donc l'un des messages, c'était que, attention, on est vraiment sur quelque chose qui vient encore d'une histoire décoloniale qui n'est pas complètement réglée. Voilà. Le deuxième point important, c'est que nous sommes les canaris dans la mine.
Oui.
Les canaris dans la mine, parce que c'est ici qu'on est allé le plus loin dans une espèce de caractère complètement ubuesque, kafkaïen, où l'État est responsable, il est fautif, mais on se retrouve avec un non-lieu. Tout ce qu'on ne veut pas apprendre dans la sagesse, on l'apprendra dans la douleur. Tout simplement.
Voilà.
Yo poisonné de l'eau,
yo criminel.
Yo poisonné la terre,
yo criminel.
Poisonné toute la sauce là,
yo criminel.
Poisonné la rivière,
yo criminel.
Criez messieurs et dames,
yo criminel.
Va crier messieurs et dames,
yo criminel.
Le savent moun ga boit de l'eau,
yo criminel.
L'habitant ga vivre ça,
yo criminel.
S'en foutez, yo s'en foutez,
yo criminel.
C'est l'argent yo ka compté,
yo criminel.
Yo comprenne nous à baba,
yo criminel.
Yo comprenne nous pas sali,
yo criminel.
Criez bagaille. La reine,
yo criminel,
crier bagaille la reine,
yo criminel,
c'est quoi diem gamari,
yo criminel,
commenter ça qui passait,
yo criminel,
yo empoisonné de l'eau,
yo criminel,
yo poisonné la rivière,
yo criminel,
yo poisonné toute la terre,
yo criminel,
yo poisonné toute la mer,
yo criminel,
les pêcheurs ne peuvent pas travailler,
yo criminel,
maman il n'avait pas pêché,
yo criminel.
Suite du reportage dans les paysages chlordéconnés de Basse-Terre en Guadeloupe, où cet insecticide organochloré toxique continue de circuler dans l'environnement 30 ans après la fin de son utilisation. Et on va aller retrouver Antoine Dessay et ses collègues chercheurs du programme Opal qui retracent le cheminement de la molécule depuis les bananeraies jusqu'aux réserves d'eau de cette partie de l'île.
On se dirige à la source Marigot, qui est une source qui se rejette au droit de la mer.
Ah oui.
Hop là, ne cassez pas la nénette parce qu'il y a un vieil escalier complètement ravagé.
Oui, c'est pas un accès de trésor énorme, on va dire.
Ouais, parce que ça c'est encore l'érosion, quoi.
Oui, c'est clair.
C'est beau là on entend le bruit des vagues.
Au pied de cette formation la géologique entre les roches et cette falaise, on voit encore des petites sources qui résurgent tout simplement face à l'océan. Et là, on a les deux tuyaux qui, à mon avis, doivent canaliser les arrivées.
Et là, qu'est-ce qu'on voit ? On voit un monsieur et une dame avec des bidons.
Ben voilà, avec des gens qui sont en train de prélever de l'eau pour leur usage, malheureusement.
Bonjour, messieurs, dames. Et vous allez où avec vos bidons comme ça, là ?
Voilà. On va récupérer de l'eau. Voilà. Il y a souvent des gens qui viennent. Quand il y a des coupures d'eau, par exemple après la dernière tempête, il y avait full ici, en fait. Hein. Il y a plein de gens qui viennent récupérer de l'eau.
Parce que c'est vrai qu'il y a toujours l'histoire des tuyaux qui sont percés et de l'eau qui n'arrive pas. Et...
Oui, voilà, c'est ça. C'est un sacré problème en Guadeloupe, hein, ça. Hein.
Mais autre scandale de la Guadeloupe.
Ouais. Voilà, voilà. On dit l'île aux belles eaux, mais voilà.
Mais alors justement, l'île aux belles eaux, mais ces eaux-là, est-ce que vous savez qu'elles sont mais bourrées de chlordécone ?
Par rapport au chlordécone, on ne sait pas si c'est meilleur que l'eau de Capes.
Capes, c'est l'eau en bouteille, c'est ça ?
Oui, en bouteille. Donc, je me dis que l'eau en Capes qui est en bouteille, et cette eau-là, je préfère boire cette eau-là au lieu de boire de Capes.
Alors là, ça tombe bien, j'ai trois scientifiques.
Oui, voilà.
Ce monsieur, il étudie l'eau des nappes phréatiques de Guadeloupe.
D'accord.
Qu'est-ce qu'on peut lui dire à ce monsieur qui a plus confiance dans la source que vous avez toujours connue, j'imagine ?
Oui, oui, voilà.
Elle s'appelle comment, cette source, d'ailleurs ?
C'est la source du Petit Marigot, voilà.
Petit Marigot, voilà.
Qu'est-ce qu'on peut lui dire, alors ?
Qu'est-ce qu'on peut lui dire ? On doit lui dire quoi, monsieur ?
Bah, la vérité, quoi.
La vérité, c'est que...
Est-ce que cette eau-là, elle est bonne à boire ou pas ?
Cette eau ne respecte pas les limites de potabilité. On retrouve notamment du chlordécone en quantité importante.
D'accord. Oui. Mais en fait, ce que je veux savoir, c'est quelle est la meilleure eau pour boire ? Est-ce que l'eau de source que je bois, elle a plus de chlordécone dedans que l'eau que je trouve dans les bouteilles de marque, Capes et Matouba.
L'eau de source ici est beaucoup plus contaminée que l'eau du robinet, je vous l'accorde, quand il y en a.
Oui.
Mais en tout cas, là, il n'y a aucun traitement, en fait.
Là, il n'y a pas de traitement, voilà, en fait. D'accord.
Celle-ci, elle est très contaminée.
Elle est très contaminée, d'accord.
Elle est très contaminée.
Mais très, ça veut dire beaucoup, beaucoup au-dessus des seuils.
Donc, vous l'avez analysée, elle est très contaminée.
Là, en mars dernier, on est venu prélever. Et donc, on a 35 microgrammes par litre.
D'accord.
Et la norme, normalement, pour le chlordécone, c'est 0,1 microgramme par litre.
Et on a 35.
Voilà. 0,1, ça fait 350 fois le niveau de chlordécone acceptable pour la santé.
Ah oui, d'accord. Bon, ben...
Ben, contaminé.
Donc, si on me dit ça, là c'est différent en fait.
Après, c'est vrai qu'on se dit que la source est du naturel, donc on a envie de se tourner vers le naturel. Et...
La pollution est invisible.
Voilà, ouais, elle est invisible.
C'est ça.
C'est naturel, mais la pollution ne se voit pas.
Vaut mieux pas la boire, quoi. Faut pas laver la salade avec.
Voilà, faut pas faire cuire ses pâtes ou son riz avec.
Ouais.
C'est faut éviter.
Bon,
c'est un message un peu de prudence là.
Oui, quand c'est comme ça, il y a beaucoup trop dedans, il n'y a rien à faire en fait.
Ouais.
Parce que, là, comme d'habitude, je la filtre avec un tissu.
Ah non.
C'est pas suffisant.
Ah non, non, non.
D'accord.
Alors, vous n'allez pas filtrer la chlordécone.
D'accord.
Ça, c'est sûr.
Ok, d'accord. Bon, ben.
Bonjour, monsieur. Il y a un autre monsieur qui passe avec ses bidons ici. Bon, ben, on va pas faire flipper tout le village non plus.
Non. Eh bien, merci pour l'information. Hein.
C'est quoi votre prénom, sans...
José Laurent.
José.
Laura.
Laura. Bon, bah écoutez, j'espère qu'on a servi à quelque chose au moins.
Merci à vous.
Merci.
Oui. Vous étiez plus ou moins au courant encore.
Oui, oui, quand même.
Oui, là, c'est levé les doutes parce qu'on a eu d'autres informations aussi.
Mais c'est sûr.
Ouais, merci à tous les deux.
Merci beaucoup.
Bonne journée.
Je dis, c'est fou.
Ouais, là, c'est, on est rattrapé par le réel, quoi. Vous êtes des chercheurs. J'ai trois brillants chercheurs spécialistes qui passent leur journée à essayer de mesurer pour pouvoir alerter, pour avoir des données scientifiques, pour changer les politiques publiques. Et puis là, on a le retour du réel.
Oui, non, mais pourtant, il y a des programmes de communication qui ont été faits. Le fait que les sources soient contaminées, enfin, nous, on a l'impression que c'est connu de tout le monde, et en fait, non. C'est déprimant.
Parce que là, si je ne me trompe pas, ils sont en train de se charger à bloc de chlordécone, ce jeune couple.
Oui, ils en ingèrent, évidemment, parce que là, on a des concentrations qui sont bien au-dessus du seuil de potabilité. Mais bon, il y a quand même des coupures. Il y a une réalité du territoire au niveau de l'eau potable qui est telle que les gens se tournent vers des sources d'approvisionnement historiques qui ne leur posent pas de problème et qui sont disponibles toute l'année. Voilà, malheureusement...
Cette source, elle est en bout de chaîne de tout ce trajet qu'on a fait jusqu'à maintenant, depuis les mornes, depuis les vallées...
Complètement. Donc là, oui, ça fait un peu de la peine à chaque fois de voir des gens boire cette eau et de se dire que peut-être qu'il y a un impact sur la santé. Et voilà. Mais donc, nous, l'objectif, c'est d'avoir une cartographie à long terme du risque d'exposition pour pouvoir un peu mieux agir sur la prévention et vis-à-vis de la population.
C'est déprimé. Hein? Je suis déprimé.
Pardon ?
Je suis déprimé.
Des chercheurs déprimés de constater comment la chlordécone, charriée par les eaux de la Guadeloupe, finit encore dans les corps de toute une partie de ses habitants. C'est un constat assez inquiétant et qui est aggravé par l'état catastrophique du réseau de traitement et de distribution de l'eau dans l'île, qui a même été officiellement pointé du doigt par les comités des droits de l'enfant de l'ONU, dénonçant une urgence en matière de santé publique. Et la santé publique, on va y venir justement, car des recherches se poursuivent sur ce que la chlordécone provoque dans les organismes des Antillais, qui ont le pire taux d'incidence du cancer de la prostate au monde. CHU de Pointe-à-Pitre.
Nous sommes à l'hôpital de Picot. Ouais.
Et là, on arrive niveau 1 et une porte registre Guadeloupe dont vous avez la clé.
Petite zone. Et là, on est dans l'espace que j'occupe au CHU. Je mène un peu l'ensemble de mes activités. Voilà, donc je suis un médecin de santé publique, épidémiologiste, professeur Jacqueline Delumeau.
Vous travaillez au registre des cancers, comme il y a par exemple autour de toutes les centrales nucléaires en France, un registre des cas de cancers détectés pour des questions d'études et de santé publique. Mm-hmm. Mais là, on a fait la même chose ici pour le chlordécone.
Alors, en fait, ce registre a été créé en 2008, en fait, et il fait partie des mesures du premier plan chlordécone. Et l'idée, c'était vraiment d'avoir un outil de surveillance sur la chlordécone. En fait, les personnes qui souhaitent se faire doser, s'ils acceptent parallèlement, mais c'est absolument pas obligatoire de participer à l'étude que nous menons, ils signent un consentement pour pouvoir les rappeler, les questionner et conserver des échantillons de sang. Il faut que nous ayons leur consentement. Donc voilà, donc cette phase, nous constituons une base d'échantillons biologiques. Ça nous permet de mesurer un peu l'imprégnation. On aura un échantillon de la population pour lequel on pourra dire quel est le pourcentage qui était au-dessus. Et puis, donc, ça nous permettra aussi, puisque nous n'avons pas les réponses à toutes les questions, d'identifier d'autres problématiques d'exposition aux pesticides éventuellement.
Vous vous êtes fait tester ?
Non.
Je sais que c'est des questions qui ne se posent pas, mais...
J'avoue que non, mais je me suis posé la question. Je pourrais me faire prélever directement au CHU, mais non, je ne me suis pas encore fait tester.
Parce que les chiffres qui sont donnés, c'est des ordres de grandeur de 90% de la population de Martinique et de Guadeloupe.
90% de la population qui sont imprégnées. Et donc voilà, donc sur les premiers échantillons, il y a des personnes qui avaient effectivement des taux élevés et qui se sont rappelées par l'ARS pour participer à ces ateliers et essayer d'identifier leur exposition.
Alors que ça fait maintenant un certain temps qu'on n'utilise plus de chlordécone ici.
Tout à fait, mais l'imprégnation dans les sols persiste, la contamination de certains aliments sans contrôle existe et donc tout le travail qui a été fait sur les jardins familiaux, sur le programme pour la pêche, tend à justement diminuer cette exposition, mais elle n'est pas inexistante. Et on le voit surtout sur le poisson bananier en Guadeloupe.
Des gens qui sont encore contaminés aujourd'hui à cause de la contamination du paysage.
Tout à fait. Il y a encore des niveaux de contamination sur la population. Et ces mesures vont nous permettre, quand on aura suffisamment de données dans ces bases, d'apprécier est-ce que le taux d'imprégnation a diminué dans la population.
Parce que qu'est-ce qu'on sait, Jacqueline, aujourd'hui, dans l'état actuel des connaissances, sur les conséquences justement de ces contaminations, ce triste record de cancer de la prostate ici ?
Les choses qui ont été actées, c'est en lien avec le cancer de la prostate. C'est le premier cancer en Guadeloupe, avec plus de 500 cas par an, comme en Martinique. En ordre d'idée, le cancer du sein, c'est un peu plus de 200 cas de cancer, donc on est déjà à un niveau beaucoup moins. Donc, nous avons des signaux d'incidence un peu plus élevés dans certaines zones. Et voilà, donc on doit faire la part des choses entre ce qu'on appelle la fraction attribuable, identifier si certains de ces cancers pourraient être associés à des expositions pesticides.
Ce n'est pas encore prouvé que ça soit lié directement au chlordécone.
Les études de Butinier et du professeur Blanchet ont montré qu'il y avait un surrisque. Il y a des études qui ont montré effectivement un lien. Et je sais que le travail continue, il y a cette première étude qui a témoin, il y a des études qui continuent sur une cohorte de cancer de la prostate, on a encore des travaux qui sont en cours sur ces cancers qui sont sensibles aux perturbateurs endocriniens. Donc il y a encore des questions, même sur le cancer de la prostate.
France Inter. Give Antilles.
Encore beaucoup de questions pour mesurer pleinement l'impact de la chlordécone sur les Antillais, condamnés à vivre avec le pesticide dans l'eau, dans la terre, dans ce qui vit et pousse dessus. Mais c'est pas fini. On avait laissé nos chercheurs déprimés de voir les habitants de Basse-Terre continuer d'aller à la source contaminée. Mais Charlotte Dromard nous raconte comment on peut suivre la triste trace de la chlordécone jusque dans la mer où 200 km² ont été interdits à la pêche. Manière d'ajouter aussi les pêcheurs à notre inventaire des victimes collatérales de l'industrie bananière.
Donc Charlotte Dromard, maître de conférence en écologie marine à l'Université des Antilles.
Et alors là, ça y est, maintenant, on est arrivé tout en bas, après avoir commencé tout en haut avec les champs de bananes, les cours d'eau et les rivières, après avoir évoqué les nappes phréatiques et les ruisseaux, et l'arrivée dans la mer, là, on est face à une plage, enfin, ce qui a dû être une plage.
Une plage qui est sur la côte très exposée. D'ailleurs, on entend les vagues, on a les alizés qui arrivent de l'est. Donc, c'est une plage qui subit beaucoup d'érosion.
On voit un pélican, là, qui décolle, c'est
ouais,
ça?
Il y a un pélican qui est venu se reposer sur le bord, là.
On voit les sargasses qui flottent au large.
On voit les sargasses qui flottent, hein, puisqu'un problème en appelle toujours un autre. Et en fait, on a ici l'exutoire final du cheminement de la chlordécone, à partir du moment où elle a été déposée au pied des bananiers. Elle finit son chemin, sa route, dans le milieu côtier. Et on effectue des mesures trimestrielles. C'est tout nouveau, on a commencé l'année dernière. On a déjà quelques résultats. Le sédiment est contaminé même au, un kilomètre au-delà de l'embouchure.
Ah oui, c'est voilà. Vraiment au large, quoi.
On a collecté des poissons, des crustacés, et on s'est rendu compte, effectivement, qu'on avait une propagation de la contamination le long de la chaîne et surtout une accumulation, à savoir que les prédateurs étaient davantage contaminés que des niveaux anthropiques inférieurs.
Parce qu'à force de manger des proies, ils concentraient le chlordécone.
Exactement. Et puis on a aussi toute la contamination dite par bain. C'est-à-dire que lorsqu'on travaille au niveau, par exemple, de la chaîne alimentaire en mangrove, qui est une forêt littorale, hein, vraiment directement sur le bord de côte, on s'aperçoit que là, on va avoir des niveaux de contamination assez élevés, quelles que soient les espèces qu'on prélève. Donc le fait de vivre dans un
infuser milieu... dans le chlordécone.
Exactement, donc c'est ça.
Donc c'est ça qui explique, par exemple, l'interdiction de la pêche, de la récolte, de beaucoup de crustacés, beaucoup de poissons, et de tout ce qui vit, par exemple, ici, là, au large, là, on a le droit de rien pêcher.
Voilà, exactement. Donc la zone côtière qui est en face de nous, ça fait partie de la zone d'interdiction totale de pêche. Et donc dans cette bande littorale, il y a interdiction de pêcher toutes les espèces présentes. Donc interdiction totale de pêche.
Et sur une île, c'est quand même un comble.
Oui, alors c'est surtout un comble. Et cette zone, elle est quand même assez étendue, hein, puisqu'elle part de Goyave, de la ville de Goyave. Elle fait tout le tour du sud de la Basse-Terre jusqu'à Vieux-Fort. Enfin, ça représente une surface importante. Il y a beaucoup de ports de pêche aussi dans cette zone. Donc beaucoup de marins-pêcheurs. Le nombre de marins-pêcheurs a d'ailleurs chuté au cours des dernières années du fait de ces interdictions, puisqu'en fait, il faut qu'ils aillent au-delà de la zone d'interdiction. Et la pêche artisanale aux Antilles, d'habitude, les pêcheurs, ils pêchent plutôt des poissons de roche, ce qu'on appelle des poissons de roche, à l'aide de nasses, dans des petits fonds, sur le plateau continental, en fait.
Ouais. Et ça risque de durer longtemps aussi?
Alors,
parce que là, pour l'eau, pour les nappes phréatiques, on parlait de dizaines, voire de centaines d'années. Mais pour la faune et la flore marine?
Alors, a priori, moi, j'aurais envie de dire pour toujours, puisqu'en fait, nous, on est le réservoir final. C'est-à-dire que tout ce qui se sera écoulé de la terre... qui se sera écoulé des rivières et des aquifères, va finir dans le milieu côtier. Donc, comme on sait qu'il n'y a pas de disparition de molécules, on aura peut-être une dégradation, mais ça n'a pas été encore observé dans le milieu marin, c'est-à-dire la formation de produits de dégradation. Donc, on pourrait imaginer...
venir dans 400 ans...
Un puits final de réception de la chlordécone au niveau de la bande côtière.
Je reviens du monde d'avant.
Okay. Hop, on monte. On largue les amarres.
Bonjour, je suis Rémi Borgia, marin-pêcheur depuis 39 ans. Depuis toujours, hein. Depuis les années 85 quand même.
Très joli, ça c'est le petit port de pêche de Trois-Rivières.
Bonjour, je suis Rémi Borgia, marin-pêcheur depuis...
jusqu'à ce qu'arrive cette histoire de zone chlordécone. Depuis toujours.
Jusqu'à cette problématique de chlordécone, où on se retrouve maintenant avec une zone d'interdiction totale de pêche. Et il y a des produits qui sont chlordécolés, mais il y a aussi beaucoup plus de produits qui est pêchable.
Alors on va voir.
On va voir. On fait la pêche au casier. Et la pêche au large, il y avait beaucoup de marins qui développaient leur activité dans la zone d'interdiction totale. Ils étaient obligés de baisser les rideaux, hein, parce que d'aller pêcher plus loin, ça demande un coût très important.
On
la rive où on navigue, c'est la zone d'interdiction totale.
Ici, là?
Ouais, c'est la balise qui détermine.
Ah, je vois la bouée là-bas, là.
Ouais, on va s'arrêter dessus. Ouais.
Là, on voit une bouée jaune.
Ouais, au large de Trois-Rivières. Il y a une première bouée qu'on voit qui on sort un petit peu.
Alors expliquez-moi.
Là, en fait, cette bouée-là, c'est ça qui délimite la zone d'interdiction totale et la zone d'interdiction partielle. Derrière la bouée, au nord, c'est l'interdiction totale. Donc, on ne doit pas pêcher.
Pas de casier, pas de ligne, rien.
Rien du tout. Et de l'autre côté, partie sud, c'est une zone d'interdiction partielle. Ça veut dire qu'il y a des produits consommables et des produits qui sont interdits.
C'est quoi les produits consommables?
Ah ben, les produits consommables, on a droit aux langoustes, on a droit au poisson coffre. C'est-à-dire qu'il y a plein de variétés et quelques variétés qui n'est pas consommable.
Mais parce que tout ce qui est de ce côté-ci, là, devant nous, entre nous et la côte, c'est considéré comme contaminé au chlordécone.
C'est considéré comme contaminé. Ils ont un taux de chlordécone plus élevé.
Ça veut dire, vous, Rémi Borja, vous faites partie, avec les autres pêcheurs ici de la région de Capesterre, vous faites partie de ceux qui, les premiers, avaient votre activité bouleversée.
C'est nous premiers qui ont subi toutes les conséquences. C'est vraiment l'injustice. Et après, on a mis en place plusieurs reconversions, ce qui n'a jamais marché.
Et vous êtes combien encore pêchés et combien ont abandonné la pêche ici dans la région?
Dans la région, une cinquantaine de navires, plus les matelots, ça fait au moins 70 personnes qui ont vraiment perdu leur métier. C'est-à-dire que ce métier, mais en même temps, c'est une thérapie. Moi, depuis tout petit, j'ai été l'enfant de la mer. Donc j'ai été élevé comme ça, je connais que ça, j'aime ça. Et j'ai jamais planté un pied de banane, j'ai jamais planté un pied de tomate, pied de laitue. Et je vis normalement. Je ne dis pas que je roule sur l'or, mais quand même, je vis normalement. Très bien, et je me sens très bien.
Ah ouais, et là, je peux te dire, là, vous êtes le seul de nous deux à se sentir bien parce qu'on est à l'arrêt au milieu des vagues qui clapotent.
Vous avez du mal de mer?
Non, ça va, mais ça va venir bientôt.
J'ai pas les ressentis que vous avez, gros. C'est comme si je suis sur mon lit où je suis là. Je rêve la pêche. D'ailleurs, je consomme que du poisson.
Et d'ailleurs, Rémi, vous, est-ce que vous vous êtes fait chlordéconner? Vous avez fait des tests pour voir?
Non. On n'a pas fait des tests de chlordéconné.
Pourquoi?
Pourquoi? Parce que je mange du poisson depuis jeune. Et aujourd'hui, à mon âge, si vraiment il y avait de la chlordécone, c'est que je suis vraiment empoisonné.
Vraiment empoisonné.
Mais ouais.
Et on préfère pas savoir des fois.
On préfère pas savoir. Ben, je suis bien, je me sens bien et j'espère être bien longtemps.
Je vous le souhaite.
Appelez-moi. Voilà. La mer ne garde rien, et si c'est pour vraiment dire la vérité, la balise est là, et ce qui est vraiment bête, c'est que les produits qui sont à l'intérieur, ils sont chlordéconnés, et derrière, ils sont pas chlordéconnés.
C'est comme si le poison s'arrêtait à la frontière, c'est ça?
C'est comme si le poison s'arrêtait à la frontière.
Une bouée pour arrêter la contamination. Ou comment le cadre de vie des Guadeloupéens peut être redessiné jusqu'à l'absurde. Un dernier mot pour finir en disant qu'on a tout intérêt à s'intéresser à comment les Antillais se démènent pour vivre dans un paysage contaminé. Parce que c'est un retour d'expérience qui risque fort de nous être utile à nous autres hexagonaux, où c'est un fongicide organochloré, le chlorothalonil, interdit en 2020, que l'on commence à rechercher et à trouver dans l'eau potable à des seuils alarmants. Merci encore à toutes et à tous en Guadeloupe, où on va retourner la semaine prochaine avec Clément Nouguet à la réalisation, avec cette fois des alternatives pour ne pas recommencer les mêmes erreurs. Car c'est peut-être une chance. En dépit du non-lieu, l'agriculture antillaise est condamnée à changer.
Yé papa, yo annonce yo, yo travail. Allez yo river. Non ayo, c'est casse épice. Kala pour tamboula. Et les épices là pour goua sont là. Ces morceaux-là, on va écouter là. Culturel et au bout du jour. Nous qu'à vivre tous les jours. À chaque
moment à vivre. Écoutez, appréciez et surtout pas copier.